Docteur Patrick Théier, ce soir ma mission est de vous présenter, je vais être succinct. Vous avez présidé les constatations médicales de Lourdes en tant que médecin. Catholique marié, père de 6 enfants, vous avez étudié l'étonnant phénomène de la mort imminente. Dites-nous donc comment contribue le miracle à notre vie chrétienne.
D'accord. J'aurais pu rester debout. Allez, je m'assois. Ben écoute, merci de m'avoir convié à vous parler. Moi, je suis toujours content de parler à des jeunes. D'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Alors, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas théologien, je ne suis qu'un praticien. Médecin, oui, en effet. J'ai été 25 ans généraliste homéopathe. J'ai fait beaucoup d'homéopathie et d'acupuncture. Donc j'ai essayé de chercher des choses différentes de la médecine classique. Et puis, en 98, Mgr Perrier, qui venait d'arriver à Lourdes, m'a demandé à chercher un nouveau médecin. Et on était 12 à se présenter. Et puis, voilà qui m'a pris. Alors, je me suis dit, bon, bah, c'est ma voie. C'est vrai que j'étais très intéressé par ce poste à Lourdes, où je suis resté 12 ans jusqu'en 2010, jusqu'à ma retraite. Et voilà. Et depuis, je travaille à la fois sur les miracles, toujours, parce que comme j'ai quand même écrit un livre qui est en lève de poche, donc qui marche pas mal, sur Lourdes, terre de guérison. Et puis après, sur les EMI, mais je vous en parlerai après, comment je suis arrivé à en parler, à y venir. On va commencer par les miracles. Vous m'arrêtez quand vous en avez marre, hein, parce que je ne sais jamais. Voilà. Alors, moi, on m'avait dit, le titre, c'était « Miracle et EMI, signe pour notre temps », j'avais dit. Et Mathilde m'avait dit « un regard scientifique sur la vie éternelle », c'est ça? Non, tu as un truc dans le genre là? Bon. Voilà, parce que vous, votre sujet, c'est la vie éternelle. Alors, en effet, c'est fondamental. Alors, je ne vais pas donner un regard scientifique sur la vie éternelle, parce qu'il n'y a pas de regard scientifique sur la vie éternelle. Je suis désolé. Il y a un regard de scientifique. Bon, voilà. Alors, un regard de médecin catholique sur la vie éternelle. C'est ça que je peux vous faire passer, si vous voulez. Sur la vie éternelle, pourquoi? Parce qu'en effet, on est dans un monde hyper sécularisé. C'est pas... vous le savez. Et que... la vie et la mort, la vie s'arrête à la mort, et puis après, il n'y a plus rien pour 90% des gens aujourd'hui. Et or, il y a quand même des phénomènes qui sortent de l'ordinaire, qui devraient nous interpeller, à commencer par les miracles, et les ai mis dans un second temps. Alors, les miracles, vous savez qu'il y a toutes sortes de miracles. Bon, les plus fréquents, ce sont les miracles de guérison. Que ce soit les miracles de guérison dans le monde entier, c'est ceux les plus fréquents. Vous savez que les miracles, il y en a beaucoup à Lourdes, on en parle beaucoup, disons. On ne peut pas dire qu'il y en a beaucoup, mais il y en a. Et puis il y a tous ceux qui sont pour les béatifications, les canonisations. Et il faut qu'il y ait un miracle pour béatifier quelqu'un et un second miracle pour canoniser. 9 fois sur 10, c'est un miracle de guérison. Donc, on va parler des miracles de guérison ce soir. Je vais parler d'autre chose. Premièrement, qu'est-ce qu'un miracle? C'est très important de savoir parce que aujourd'hui, ces termes chrétiens sont passés à la mode et courant, et on parle de miracle pour un oui ou pour un non. Si vous gagnez au loto, c'est un miracle. Hein, bon. Est-ce que c'est ça un miracle? Non, c'est pas ça un miracle. Alors, c'est quoi un miracle? Je pose la question que je pose toujours quand je fais des conférences, mais c'est quelqu'un tombe du 4e étage et ne se fait pas mal. Il est indemne à l'arrivée. Est-ce que c'est un miracle ou est-ce que c'est pas un miracle?
Ouais, c'est quand même pas mal.
Alors, qui... si quelqu'un a levé le doigt un petit peu, là. Alors, hein?
Ça dépend si quelqu'un a prié pour la personne ou si la personne elle-même a prié.
Ça peut être ça, oui. Mais qui peut dire si c'est un miracle ou si c'est pas un miracle?
Le médecin.
Des critères.
Il y a des critères, on peut vérifier que...
Ah oui, secondairement.
Il y a des choses qu'il n'a pas rebondi sur le truc du café en dessous.
Comme dans Tata. Non. Il y a miracle si la personne dit que c'est un miracle, au départ. si elle le voit comme un miracle, si elle le voit comme une intervention de Dieu dans son existence, si elle sait que si, entre le quatrième et le premier, il s'est passé quelque chose en elle qui fait qu'elle est sortie d'affaire. Et c'est important, il faut partir de... Tous les miracles partent de l'expérience de la personne. C'est elle qui vient dire, voilà, j'ai vécu quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, ça me dépasse, il me semble qu'il y a une intervention supérieure. Voilà, d'accord. Alors, les miracles de guérison, c'est pareil. Moi, j'étais à Lourdes, donc, pendant 12 ans, pour recevoir les déclarations volontaires et spontanées des personnes qui estimaient, qui alléguaient une guérison, qui estimaient avoir bénéficié d'une guérison par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes. Parce que si c'est par autre chose, par Notre-Dame de Fatima, ça se passera à Fatima, d'accord. Donc, oui, mais ça pouvait se passer aussi bien dans le sanctuaire, mais aussi, j'ai eu des gens qui ont guéri avant d'arriver, d'autres qui ont guéri dans le train en repartant, ou d'autres qui ont guéri dans une chapelle. Moi, je me souviens d'une femme, elle était à un mariage, elle s'ennuyait, elle est allée dans une petite chapelle de Notre-Dame de Lourdes, et puis là, elle a prié, puis elle a guéri. Bon. Donc, toutes les possibilités existent. Mais bon, en général, c'est quand même des gens qui sont venus à Lourdes. Alors, qu'est-ce qu'un miracle ? Premièrement, tout ce qui est inattendu, surprenant, extraordinaire, impossible, n'est pas forcément un miracle. Okay ? Deuxièmement, le miracle, c'est un fait réel qui se constate. Le miracle de guérison, ça se constate. On y reviendra. Les miracles ne sont pas des prodiges. Ce n'est pas un rond qui devient carré. Hein ? Ce n'est pas un unijambiste qui repart de Lourdes avec ses deux jambes. Ça, on n'a jamais vu. C'est saint Augustin qui disait « Le miracle ne contredit pas la nature, il contredit la connaissance que nous en avons. » Donc, pour qu'il y ait miracle, il faut deux choses. Premièrement, un fait extraordinaire, inattendu, inexplicable, mais aussi une signification d'ordre spirituel et qui peut être donnée d'abord et avant tout, et je dirais essentiellement, par la personne qui en bénéficie. Et donc l'importance d'entendre ce qu'elle a à vous dire. Donc c'est un événement surprenant ayant un sens spirituel. On a une définition du petit Robert qui est très bien, qui dit « Le miracle est un fait extraordinaire où l'on croit reconnaître une intervention divine bienveillante auquel on confère une signification spirituelle. » C'est pas mal. Il n'y a pas Dieu dedans, mais bon, pour le petit Robert, c'est pas si mal. Voilà, donc, premièrement, le fait extraordinaire doit être constaté et doit être authentifié. Pour la guérison, c'est le cas. Hein. Moi, quand j'ai quelqu'un qui vient me voir, alors j'avais en moyenne une nouvelle guérison déclarée par semaine. Ça faisait une cinquantaine par an, plus toutes les autres personnes qui avaient guéri les années précédentes, et ça peut remonter déjà loin, qui venaient à nouveau me voir pour reparler de sa guérison, pour apporter des documents, pour vérifier, etc. etc. D'accord ? Donc ça, c'est le premier temps, et mon rôle, c'était donc d'assurer que, premièrement, quand quelqu'un dit qu'il est guéri, il faut d'abord être sûr qu'il était vraiment malade. C'est pas si évident que ça, puisqu'il est guéri. Alors, était-il vraiment malade ? Et deuxièmement, est-ce que la guérison est réelle et complète et définitive ? Bon, donc, en général, quand quelqu'un vient vous dire ça, on n'a pas tous les éléments pour pouvoir être sûr. Donc, je lui disais, ben, écoutez, très bien, je prends note de tout ce que vous avez dit. Mais vous allez repartir chez vous, vous allez retrouver votre médecin traitant, les spécialistes que vous avez pu voir avant. Vous allez lui raconter votre histoire, et puis voir un peu ce qu'il va dire. En général, ils ne sont pas très contents, parce qu'ils disent « que c'est que cette histoire ?» Mais avoir les examens, refaire les examens, et revenez à ce moment-là, l'an prochain, par exemple, on n'est jamais pressé, hein, vous savez, et vous amenez les documents avant la guérison, et les documents après. Et là, on pourra faire un travail sérieux. Et ce travail, je le faisais avec tous les médecins qui passaient à Lourdes. Vous savez qu'il y a à peu près 3500 médecins qui passent par an à Lourdes, ça n'a l'air de rien, de 72 pays différents. quand j'avais un groupe de médecins suffisants de même langue en général pour pas que ce soit trop compliqué, on voyait ensemble le cas d'une personne qui alléguait une guérison, soit récente, soit ancienne. Sur les cinquantaines de guérisons que j'avais par an, il y en a une dizaine qui faisait l'objet d'un travail de constatation plus approfondie, parce que on a toujours en perspective la possibilité que ce soit ou non un miracle. Or, pour qu'une guérison soit reconnue miraculeuse, il y a des critères très précis qui ont été donnés au 1735, c'est Benoît XIV, cardinal Prosper Lambertini, qui était un scientifique avant l'heure, et qui a posé donc un certain nombre de conditions pour qu'une guérison soit reconnue miraculeuse. Et elles sont toujours d'actualité. Il y en a sept. Le premier critère, c'est que la maladie soit grave, de pronostic très défavorable. Ok, on ne va pas crier miracle pour un petit bobo qui disparaît. Donc, tout de suite, quelqu'un qui vient vous dire « Moi, j'ai guéri, j'avais mal aux doigts, j'ai plus mal », très bien, on va pas loin. Deuxièmement, il faut que la maladie soit bien connue et répertoriée par la médecine. Donc, on ne part pas sur du flou, il faut quelque chose de précis. Troisièmement, il faut que cette maladie soit organique, lésionnelle, et on ne retient pas les maladies psychiques, psychiatriques, etc. Bon, c'est peut-être un peu dommage, parce qu'il y en a beaucoup. Mais c'est comme ça, pour l'instant, on en est là, lésionnel. Bien sûr, quatrièmement, il faut qu'il n'y ait pas de traitement qui vienne interférer dans la guérison. Alors, vous imaginez que ça, c'est très compliqué, vu qu'aujourd'hui, vous êtes traité dès que vous avez un petit bobo. Donc, les gens qui ont des maladies graves sont surtraités, et c'est là où il faut savoir si le traitement a pu avoir une action ou pas. Mais on a un critère important qui est le cinquième. La guérison miraculeuse sera miraculeuse que si la guérison a eu lieu de façon subite, soudaine, instantanée et sans convalescence. Ça, c'est quand même... On ne voit pas ça en médecine. Hein. Des gens qui guérissent instantanément d'une maladie grave, c'est quand même intéressant. Sixièmement, il faut que ce soit une vraie guérison, une guérison totale, complète... que la personne retrouve toutes ses capacités. Et dernièrement, il faut que ce soit une guérison durable, pas une rémission pour un certain temps. Donc, vous voyez, ce sont des critères. Alors, durable, c'est pas toujours facile, mais vous voyez qu'on attend quand même assez longtemps, suffisamment longtemps, pour être sûr que c'est durable. D'accord ? Pas de questions sur ce sujet-là, parce que c'est très important. Ok. Donc ça, c'est le premier point qui est donc travaillé avant tout, bien vous en doutez, par les médecins. Donc d'abord le médecin permanent du sanctuaire, les médecins qui passent là, puis dans un deuxième temps, le comité médical international de Lourdes, qui est composé d'une trentaine de médecins spécialistes des hôpitaux, qui se réunissent une fois par an à Lourdes et qui prennent en charge les dossiers qui sont présentés par le médecin permanent, les dossiers les plus... qui semble pouvoir aller plus loin. Et à ce moment-là, dans le lot, il y en a un qui est spécialiste de la maladie guérie, qui prend en charge le cas, qui fait une expertise, et qui représentera à ses confrères, dans une réunion suivante, ses conclusions. Alors à ce moment-là, il y a un vote secret. Et s'il y a une majorité qui se dégage des 3 cinquièmes pour dire que, oui, il y a bien eu guérison, cette guérison n'a pas d'explication médicale en l'état actuel de nos connaissances, on arrive à la conclusion que cette guérison est inexpliquée. Bon, j'aime pas trop le mot inexpliqué, c'est resté pour l'instant. Moi, je dirais inexplicable. Parce que, finalement, inexpliqué, c'est oui, peut-être qu'un jour on pourra l'expliquer. Alors moi j'entends ça à longueur de temps, les gens qui ne croient pas au miracle viennent me dire oui, un jour on pourra l'expliquer. Non, Lourdes depuis 165 ans, il y a eu des guérisons de l'époque et puis tout le temps, on n'arrive pas à expliquer aucune guérison. Alors aujourd'hui, on dit par exemple, vous avez une tuberculose, bon, ben oui, vous pouvez en guérir aujourd'hui, parce que dans le temps, on n'en guérissait pas. Ok, mais aujourd'hui, il faut quand même des traitements sérieux et longs pour aboutir à avoir une guérison. Alors qu'on a vu, bon, j'en ai vu plusieurs, malades atteints de tuberculose qui guérissaient instantanément. La plus connue, Jeanne Fretel, que j'ai connue vivante, parce que tous les miraculés finissent par mourir. Hein, il n'y en a plus beaucoup vivants en ce moment. Parce que, il n'y en a plus beaucoup. Bon, donc, bref, on reviendra sur, si ça vous intéresse de savoir pourquoi. Jeanne Fretel était en phase terminale d'une tuberculose généralisée, en particulier devenue abdominale, donc elle avait une ascite, c'est-à-dire un gros ventre gonflé, plein d'eau. On l'a amenée à la grotte, elle n'était plus consciente, hein. Et c'est un dominicain qui le raconte lui-même, parce qu'il donnait la communion, quand il est arrivé à cette dame, il a dit à celle qui était à côté, ben, je ne vais pas donner la communion, elle est morte. Non, non, elle n'est pas morte, écoutez, son cœur, ben, ah bon, alors il a touché la langue avec un bout d'hostie. À ce moment-là, elle a ouvert les yeux, alors c'est aussi une guérison eucharistique, là. Elle a ouvert les yeux, et elle dit, ben, qu'est-ce que je fais là, etc. Et son ventre s'est aplati. Tchoup Alors, c'est quand même étonnant, quoi. Un médecin qui voit ça, il tombe des nues. Et à partir de là, elle pensait qu'à une chose, c'est à manger, parce qu'elle avait perdu 35 kilos, quand même. Tout ce qu'elle voyait, elle l'avalait. Or, on sait qu'aujourd'hui, c'est très dangereux d'avaler n'importe quoi quand on avait grillé trop, et elle a pu le faire. De même que Jean-Pierre Belli, qui a guéri une sclérose en plaques, il était invalide à 100% depuis 16 ans, reconnu par la Sécurité sociale à titre définitif, il guérit à Lourdes, le lendemain, il fait du vélo. Alors qu'il ne marchait plus depuis 16 ans. Quoi. Enfin, c'est... Voilà. Donc vous voyez, c'est quand même... Nous, médecins, ça nous surprend énormément. Voilà. Donc ça, c'est le côté médical. Mais comme je l'ai dit dès le départ, il faut aussi le côté spirituel. Et là, je crois que c'est très important... Moi, j'ai beaucoup insisté sur le fait qu'il faut écouter et entendre ce qu'a vécu la personne. Parce que la guérison physique, c'est bien. Mais comme je vous le disais, c'est pour un temps. Hein. On guérit de sa sclérose en plaques, mais on finit... M. Belli est décédé 4 ans après d'un cancer du foie. Un monsieur qui a guéri une maladie incroyable en italien. 2 ans après, il se fait écraser par son tracteur. Bon, alors, c'est un peu bête, quoi. Donc, ce que je veux dire... C'est que la guérison physique, c'est bien, mais la guérison intérieure qui accompagne cette guérison physique, c'est beaucoup plus important. Et justement, hier, j'y pensais, l'évangile d'hier, vous vous souvenez, l'évangile de la messe d'hier, c'est Jésus qui retourne à Nazareth, et là, il ne pouvait pas faire de miracle. Oh, il faisait des guérisons. Des guérisons, lui, des guérisons. Pas de miracle. Ça veut dire quoi, ça?
Ils sont retombés malades.
Hein?
Ils sont retombés malades après.
Non, parce que le miracle, c'est autre chose que la guérison. C'est pas seulement la guérison physique. Finalement, il y a des rebouteux, il y a des gens en Inde et tout ça qui veulent pas. La guérison miraculeuse, c'est une guérison de tout l'être, de toute la personne. Et Jésus ne pouvait pas toucher le cœur des gens qui n'avaient pas la foi. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il faut avoir la foi pour guérir? Moi, j'ai vu des gens qui n'avaient pas la foi. Ils s'y attendaient. Pas du tout. Ça leur tombe dessus. Alors, c'est quoi la foi? C'est pas la foi individuelle. Moi, je crois que c'est la foi du peuple de Dieu rassemblé là, à Lourdes, où de la Vierge a demandé qu'on vienne en procession, en pèlerinage. C'est cette foi. À Lourdes, il y a quand même une grande foi. Il suffit d'y être. Il y a une grande espérance aussi dans la guérison. C'est normal, c'est sûr. Et puis une grande charité qu'on voit à travers tous ceux qui se mettent au service des autres, les vertus théologales. Et c'est là, c'est grâce à ça, à mon avis, que heureusement, il y a toujours des guérisons aujourd'hui. Ok ? Alors il y en a moins qu'il y a 100 ans. Il y a 100 ans, on faisait la queue au bureau médical. On faisait la queue. Hein ? Alors, il y a des raisons. La première, c'est que la médecine a fait quand même d'énormes progrès. Reconnaissons-le. Hein. Si vous êtes malade, je vous conseille d'ailleurs d'aller d'abord voir votre médecin avant d'aller à Lourdes. C'est plus logique et plus raisonnable quand même. Mais il y a toujours des maladies que la médecine ne veut pas traiter. Et puis, il y a des surprises. Il y a des gens qui guérissent là de maladies voilà, qui sont, qu'on peut guérir par ailleurs, mais qui guérissent là. Bon. Donc, le côté spirituel est pour moi très important. Alors, j'en ai parlé beaucoup dans mon livre Lourdes, Terre de guérison, parce que je crois qu'on l'avait un peu oublié. On était resté trop sur le côté physique. Et c'est dommage. C'est dommage parce que, à cause de ça, on retient que les cas extraordinaires, quoi. Extraordinaire, je racontais tout à l'heure à Robin, qu'est-ce qu'il est, une femme qui est venue me voir le 17 décembre 2009, c'était ma dernière année, donc le 17 juillet, le lendemain de Notre-Dame du Mont-Carmel, le 16 juillet, c'est Notre-Dame du Mont-Carmel, et c'est la dernière apparition de Lourdes. Elle vient me voir le lendemain. Elle me dit, regardez ma main, j'avais une maladie de Dupuytren. Une maladie de Dupuytren, c'est une maladie où tous les nerfs se resserrent et on se retrouve avec une griffe et on ne peut plus utiliser sa main. J'ai été opéré au mois d'avril par un chirurgien qui, malheureusement, n'a pas pu faire quoi que ce soit. Il l'a bien regretté. Ma main était toujours aussi coincée. Je vais à la grotte hier, puis tout d'un coup, je sens un souffle sur ma main et je me rends compte que je peux commencer à la bouger. Ça y est, j'ai regardé. Ben oui, en effet. Alors, il y avait encore la trace de la chirurgie, hein, mais elle bougeait sa main normalement. Je lui dis, c'est bien, formidable, je note ça, tout ça, mais ça ne sera jamais un miracle parce que c'est une toute petite maladie. Hein, je suis désolé, mais pas la peine d'aller plus loin. Retournez voir votre médecin et revenez avec d'autres examens, ça intéressera mon successeur parce que je partais 3 mois après. Or, en fait, j'ai eu des nouvelles par ailleurs, plus tard, parce qu'elle m'a envoyé un mail, et puis elle m'écrit tous les ans. Et elle me dit, écoutez, c'est une femme qui avait une cinquantaine d'années, qui était célibataire, qui s'occupait de sa mère. Elle me raconte, ma mère est décédée entre-temps, et moi, à la suite de cette guérison, je suis rentré au Carmel. Bon. Alors elle me dit, c'est vous qui m'avez dit... Réfléchissez à ce que la Vierge veut vous dire à travers cette guérison. Je m'en souviens plus du tout, moi. Mais je lui avais dit, paraît-il, là, tous les ans, elle m'envoie ses vœux, elle prie pour ma famille. Je suis très heureux qu'elle ait guéri. Hein. C'est comme ça. Donc voilà, je pourrais vous en raconter plein d'autres, mais je ne peux pas passer ma soirée à vous dire, à vous raconter des témoignages, sinon on va parler que de ça. Il faut m'arrêter, hein, parce que quand je commence sur le sujet, et après il y a les EMI. Alors... Voilà. Donc, la spécificité de cette guérison, qui est toujours relevée, c'est que le malade sait. Alors, c'est important ça. Le malade sait et sent qu'il guérit. Parce qu'aujourd'hui, les médecins agnostiques disent oh là là, Lourdes, vous avez 3 guérisons par an, nous on en a 100. Les guérisons inexpliquées. Pas par hôpital, mais sur le monde entier. Parce que maintenant, quand il y a une guérison inexpliquée, ça passe sur Internet, tout le monde le sait, etc. Alors, ils disent, oui, nous, on a des miracles. Mais c'est rien à voir, ça n'a rien à voir. Les guérisons qu'on appelle aujourd'hui des rémissions spontanées, bon, c'est quelqu'un qui a un cancer de pancréas, par exemple. Les médecins, statistiquement, se disent, bon, un cancer du pancréas, c'est maximum 6 mois. Puis, 2 ans après, les gens sont toujours là. La personne malade est toujours là. Bon, alors, on fait une grande observation, on publie, 2 ans après... Est-ce que c'est un miracle ? Non. Ça sort des normes statistiques. C'est la courbe de Gauss. À l'extérieur, il y a c'est tout. C'est rigolo que les médecins croient encore à ça. Ça n'a rien à voir. Surtout que le malade n'est absolument pas conscient qu'il a pu vivre une guérison. Alors que une guérison miraculeuse, la personne sait et sent exactement le moment où il a guéri. Et il peut le dire, et il a à ce moment-là la notion d'avoir été sauvé par une entité supérieure qui peut représenter Dieu s'il est chrétien, ou qu'il y viendra s'il n'est pas chrétien. Moi, j'ai eu une fois une femme qui me téléphone, c'était en septembre, par là, elle me dit, je suis venu au mois de juin à Lourdes, j'avais une maladie de l'intestin, Lequel. Bon, enfin bref, c'était très grave, Bon, je ne vous fais pas le tableau. J'ai suivi les dames qui allaient dans un sens. J'étais tiré par... J'ai suivi, on m'a mis dans l'eau, et là, je me suis mis à pleurer, j'ai fait la découverte de l'amour de Dieu pour moi. Et en sortant, j'étais guéri. Bon, moi, je suis retourné, hein, une histoire pareille. Alors, je lui ai dit, vous avez revu votre médecin ? Ah oui, il n'y croit pas deux secondes, mais moi, j'ai arrêté mon traitement, j'ai arrêté mon régime, tout va très bien. Bon, vous avez vu votre aumônier ? Ah non, non, je n'ai pas d'aumônier, je suis musulmane. Elle était musulmane. Ça surprend quand même, quoi. Je l'ai suivie. Bon, on va jamais la reconnaître officiellement parce que ça, c'est un peu compliqué. Mais quelques années après, elle a demandé le baptême. Quand même. Donc, c'est autre chose qu'une simple guérison d'une rectocolite hémorragique. Voilà, c'était ça, c'est un peu. C'est autre chose. D'accord ? Ça vous parle, tout ça ? Voilà. Alors, le regard de scientifique sur la vie éternelle, c'est ça, quoi. C'est que les gens, à ce moment-là, ont une ouverture sur le... l'autre vie, quoi. Et ils sont prêts à... je termine par une autre histoire qui me vient à l'esprit. C'est une jeune fille qui s'appelle Béatrice. Et... elle me téléphone un jour, elle me dit, c'est mon confesseur qui m'oblige à vous téléphoner. J'ai guéri d'une cécité. Voilà, je vous l'ai dit maintenant, au revoir. Tac, elle raccroche. Bon, je note, et on m'a téléphoné tel jour, telle heure. Bon. 3 mois après, j'ai une de mes filles qui était étudiante à Bordeaux qui revient et qui me dit « Oh, je me suis fait une copine vachement sympa. » Et alors, elle était aveugle, maintenant elle voit clair. Je dis « Ah, quoi ?»« Ah oui, elle était aveugle, elle m'a raconté. Maintenant, tu pourrais me donner son téléphone ?»« Oui, je te le donne. » Hop, je la rappelle. Alors, je lui dis « Alors quoi, là, ça serait quand même sympa de venir me raconter un peu ton histoire, parce que il me semble que tu étais aveugle, tu vois clair. Oui, c'est moi. Ah bon, elle dit, bon, ben alors, je t'attends. Elle est venue quand même. Et puis elle m'a raconté son histoire. Elle m'a dit, ben oui, voilà, j'ai une maladie génétique familiale, la maladie de Leber, qui est connue par la médecine, qui fait que les gens, à l'adolescence, tombent aveugles. Donc ça lui est arrivé à 15-16 ans. Les parents s'y attendaient, l'attendaient, donc avaient prévu de la mettre dans la cour de braille pour apprendre le braille. Et elle passe son bac, elle a son bac avec mention. Elle veut s'inscrire en prépa à Fermat. Elle arrive, c'était trop tard, c'était fermé. Mais étant aveugle, ils en sont très bien, sera le directeur la prend quand même. Il dit « Bon, bah, allez, je vous prends, ok. Venez. » Bon, alors eux, pour remercier le ciel, ils viennent à Lourdes. Et en repartant de Lourdes, sur la route de Bordeaux, vous habitez Bordeaux, elle voit clair. Tout d'un coup. Elle dit « Arrêtez, je vois clair. » Et de près et de loin, elle voyait clair. Ouais, donc c'est pour ça qu'elle a été racontée à son confesseur, quand même, c'est même pas banal. Et elle me dit à nouveau, notez-le si vous voulez, mais je ne veux pas être reconnu miraculé. J'ai jamais compris bien pourquoi, bon, enfin, l'histoire de famille, sa mère était médecin, elle se culpabilisait parce que ça passe par la mère, la maladie génétique, bon, bref, je pense à rien. Sauf que, 3-4 ans après, elle repasse me voir, elle me dit, voilà, cette guérison, ça m'a quand même beaucoup, beaucoup marqué. Ben, je rentre au Carmel de Lourdes. Et elle y est toujours. C'était il y a 20 ans. Elle s'appelle Béatrice. Mais c'est plus son nom de carmélite. Voilà, bon, donc, les belles histoires. Hein. Bon, ça va sur les miracles, vous en avez assez ? Alors, les EMI, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parce que... Alors, moi, j'avais entendu parler en 1975, du premier livre qui a parlé des expériences de mort imminente, des NDE, des Near Death Experience, c'était le docteur Raymond Moody, qui a écrit le premier livre sur le sujet, Il y a eu Isabelle Kubler-Ross, mais c'était moins clair. Et ça m'avait beaucoup intéressé. Seulement, je commençais ma carrière, j'avais ma famille nombreuse, j'avais pas d'autres choses à faire. Et je me suis toujours dit, quand j'aurai le temps, je reprendrai la question. Donc j'étais 25 ans libéral, je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Et puis, arrivé à l'autre, voilà que, étant là pour écouter les gens, il y en a un, puis deux, puis trois qui viennent me voir et qui me disent, « Docteur, j'ai pas fait une guérison, mais moi, je suis mort et puis je suis revenu à la vie. » Racontez-moi. Ah, je vous le raconte parce que jamais personne n'a voulu m'écouter. Même mon médecin, il ne veut pas en entendre parler, il voulait m'envoyer chez le psychiatre, vous comprenez. Non. Je vous assure, je suis mort, je suis revenu à la vie. Alors, je vous dis, j'en ai eu plusieurs comme ça, c'est quand même étonnant. Puis, je me suis donné le mot, en plus. Parce qu'ils ne trouvaient personne à qui raconter leur histoire. Donc, quand j'ai pris ma retraite, je me suis dit, je vais reprendre tout ce qui a été écrit là-dessus. Il y a pas mal de littérature, surtout en anglais, d'ailleurs. Et j'ai rencontré le docteur Moody. Puis, je me suis rendu compte que ces histoires-là n'avait jamais été prise très au sérieux par l'Église. Je vais reconnaître, l'Église, bon, autant les miracles, ça fait partie du corpus, on connaît, voilà, les amis. Donc, je me suis dit, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une présentation catholique, parce que c'était très repris par le New Age, tout ce qui était... Et je me suis rendu compte que ce que racontaient ces gens... c'était tout à fait en accord avec ce que dit la foi catholique. Alors, je peux vous reprendre les différents points, que je peux avoir ici quelque part, parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais, par exemple... Alors d'abord, qu'est-ce qu'une EMI ? Je vais peut-être vous dire quand même, parce qu'il y en a qui ne savent peut-être pas. Alors voilà, si, quand même, je vous cite Mgr André Léonard, évêque émérite de Bruxelles-Malines. Bruxelles, les EMI reprennent de manière précise et détaillée l'ensemble des thèmes traditionnels qui sont présents dans la doctrine chrétienne, au centre de laquelle est affirmé que Dieu est amour. C'est pas moi qui le dis, ça, hein, c'est un évêque. Pas mal, hein. Alors, il faudra d'autres, hein. Il faudra aussi des théologiens qui travaillent là-dessus. Voilà, donc ce sont des personnes, les expérienceurs, comme on les appelle aujourd'hui. Donc ils sont considérés pendant une période variable comme morts cliniquement, donc le pouls, la respiration, ou en coma. Qui donc reviennent in extremis à la vie. Alors, il y en a de plus en plus depuis les années 70, parce qu'on a maintenant des méthodes pour réanimer les gens qui sont en arrêt cardiaque, qu'on n'avait pas avant. Hein. Moi, quand j'ai fait mes études de médecine dans les années 60... Le massage cardiaque, ça n'existait pas. Le choc cardiaque, encore moins. Enfin, on n'avait pas de moyens. Aujourd'hui, on arrive à réanimer quand même des gens qui sont vraiment mal en point. J'ai un souvenir d'un chanoine. On était chez l'évêque de Lourdes. Et puis, on prenait l'apéritif un soir avec tous les médecins spécialistes du CMIL. Bon, les mecs, haut niveau, hein. Un chanoine arrive, 70 ans par là, on lui donne un verre de whisky, boum, il tombe, là. Ah, il est mort, hein. Qu'est-ce qu'on fait, mais ah, il est mort, hein. Bah oui, il est mort. Et c'est le journaliste qui était là qui dit, si on faisait un massage cardiaque. Incroyable. Alors c'est moi qui m'y suis coltiné, parce que les autres ne savaient pas. Et un quart d'heure, hein, 20 minutes, parce que on appelle bien sûr le SAMU. Le SAMU ne trouvait pas où habiter l'évêque, il avait fini. Il arrive enfin, écartez-vous, on va faire un choc cardiaque, tout, bon, rien, bon. On va faire un second, allez, en avant, boum, ah, il revient à lui. Hop, on l'emmène à l'hôpital. Bon, le lendemain, je vais le voir, je lui avais cassé quatre côtes. Hein. Un massage cardiaque, c'est hard. Mais il n'avait rien perdu de sa tête, parce qu'on lui envoie du sang dans le crâne, à longueur de temps, dans le cerveau. Donc. Sauf qu'il n'avait pas fait de MI. Alors, genre, j'ai râlé, quoi. Il n'avait pas fait de MI. Il ne se souvenait pas d'avoir fait une MI. Voilà. Alors, il y a quoi, on pense aujourd'hui, 12 à 18%, c'est les chiffres qui restent. de gens qui sont en arrêt cardiaque cardiovasculaire qui font une EMI. Bon, je reviendrai après pourquoi certains en font, d'autres n'en font pas, on verra. Alors, quand elles reviennent, eh bien, en général, elles sont transformées. Alors, ça peut aller plus ou moins loin. Il y a différents stades, si vous voulez, dans l'EMI. Ça vous intéresse que je vous les donne ou pas ? Vous allez me tenir jusqu'à minuit. Hein, D'abord, il y a une décorporation. Hein. Je me souviens, la première qui m'a raconté ça, elle me dit « J'ai fait une crise d'asthme épouvantable, ma mère qui était infirmière me met dans la voiture. On part à l'hôpital, c'est mon père qui conduisait. Ah, je me suis trouvé au toit de la voiture. » Et puis je dis « Qu'est-ce qu'elle fait là en dessous ?» Ben, c'était moi. J'étais au toit de la voiture, on arrive dans l'hôpital, tap, je monte en haut du plafond. Et je regardais les gens me faire des massages et tout ça, et bon, c'est quand même assez étonnant. Donc la décorporation, le corps quitte le bas. Et alors donc un changement d'état du corps. Hein. Ça peut aller très loin. Les gens peuvent s'éloigner de l'endroit où ils sont. Ils peuvent se retrouver à la salle d'attente, par exemple, ou bien ils voient les parents pleurer, ou alors même, moi j'en ai connu un qui est retourné dans sa maison natale à 600 km de là, et qui dit à ses parents après être revenu à lui, pourquoi vous avez changé mon lit de place, hein, alors qu'eux, ils ne l'avaient pas revu. Puis... Donc, le corps peut partir ailleurs. Il y en a qui racontent qu'ils sont montés dans les astres. Enfin, bon. Et ça, c'est quand même le premier temps. Bon, c'est amusant, mais enfin, ça n'a rien d'extraordinaire. Non, parce que les décorporations, ça peut se voir dans des cas autres, même quand vous... Bon, c'est pas la peine, j'insiste. Alors, après, le plus étonnant quand même, c'est que dans un cas sur trois, le sujet, vous savez, est aspiré dans un tunnel. Il est aspiré dans un tunnel qui est quand même assez étonnant, parce que il y a plein de lumière, c'est très beau. Et ils débarquent dans un paysage qu'ils n'ont jamais vu, et qui pour eux est vraiment extraterrestre. On n'avait jamais vu. Bon, alors là, encore une fois, ça peut s'arrêter là, ça peut s'arrêter à la décorporation, ça peut s'arrêter au tunnel, ça peut aller encore plus loin, dans un tiers des cas, ils arrivent dans une lumière éclatante, brillante, comme ils disent, comme 100 000 soleils, mais qui n'éblouit, qui ne fait pas mal. Et cette lumière est très attirante, très attirante. Bon. Et puis ils peuvent rencontrer d'autres êtres, et en particulier des défunts de leur famille. La jeune femme dont je vous parlais, elle a rencontré sa grand-mère qui était là. Alors, mais je lui ai dit, mais comment elle était votre grand-mère ? Ah oui, j'avais connu, j'avais 5 ans, mais oh, je l'ai bien reconnue. Elle était encore âgée, mais... Elle avait un visage différent, elle était très belle. C'est quand même donc, chaque fois que j'interrogeais les gens là-dessus, c'est des gens transfigurés, en fait, qui rencontrent. Et en général, quand ils rencontrent quelqu'un de leur famille, c'est pour leur dire « Retourne, c'est pas ton heure. Si tu vas plus loin, c'est foutu, tu resteras là. » Et eux n'ont pas envie de revenir. Ils sont tellement bien qu'ils n'ont pas envie de revenir. Ça peut leur poser problème. Moi, j'ai connu une femme qui avait 4 enfants. Elle m'a dit après, mon Dieu, mais j'étais prêt à les abandonner. Moi, j'étais tellement bien, je n'avais pas envie de revenir. Voilà. Alors, encore un niveau au-dessus, c'est qu'ils rencontrent un être de lumière. Cet être, c'est une personne, c'est pas... qui rayonne de lumière. Et qui dégage un amour... Il n'y a pas d'adjectif. Un amour inconditionnel, ineffable, merveilleux, tout. Et donc, alors les chrétiens disent c'est le Christ, mais enfin je ne pense pas que ce soit le Christ, mais c'est, voilà, c'est quand même une personne de lumière qu'on doit voir, qui dégage cet amour qu'ils n'oublieront jamais. Hein. Ça va changer complètement leur vie, hein, à partir de là. Bon, alors ils peuvent aussi voir le film de leur existence passée en un seul coup d'œil. L'être de lumière semble tout connaître de lui, posant la question « Qu'as-tu fait de ta vie ?» Avec beaucoup de tendresse, sans blâme, sans reproche, sans culpabilisation, mais avec, en même temps, toute l'exigence de l'amour et de la vérité. Voilà. Il n'y a pas de jugement, mais c'est le sujet qui comprend en quoi il a bien ou mal agi. Faisant la vérité avec lui-même, ressentant tout le mal ou tout le bien qu'il a fait aux autres, comme s'il se l'était fait à lui-même. Donc, ça crée un sentiment de paix, de sérénité, de tranquillité extraordinaire, mais il faut qu'il revienne. Alors, le retour dans le corps humain est toujours compliqué. Ils disent tous, on a l'impression de rentrer dans quelque chose de trop petit pour nous. Comme si vous étiez obligé de mettre des chaussettes trop petites ou des gants trop petits, vous n'arrivez pas à rentrer dedans. Et c'est extrêmement douloureux. Bon, alors vous imaginez qu'on ne revient pas indemne d'une telle expérience qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Et pour la plupart, ils disent, j'y pense tous les jours. Je ne peux pas l'oublier, c'est vraiment inscrit en moi. C'est comme une nouvelle naissance. C'est quand même assez étonnant. Et à partir de là, donc, leur vie reprend goût. Ces gens qui vont se tourner vers les autres, éventuellement vers la religion, pas obligatoirement, encore une fois, ça dépend, qui n'auront plus peur de la mort. Bon, pour eux, la mort, à ce moment-là, fait partie de la vie, et voilà. Ce que je peux dire, alors, j'ai écrit deux livres là-dessus, en donnant des paroles d'expérienceurs, des témoignages extraordinaires. J'en écris un troisième, alors vous voyez, parce que j'en ai tellement de témoignages que si je ne les mets pas par écrit, je trouve que c'est dommage de les perdre. Voilà. Alors, vous allez me dire, bah, tout va bien, si on va tous comme ça directement au paradis, il n'y a pas de souci. Ah, malheureusement, il y en a aussi qui ont des soucis. Donc, on ne sait pas trop. Disons 3% des cas. Mais ceux qui ont des problèmes, ils ne le racontent pas trop. Ben, eux, c'est plutôt effrayant. Et tous parlent d'enfer. C'était l'enfer, épouvantable. Des cris, ça sentait mauvais, c'était l'horreur. Et alors eux, c'est un avertissement, parce que à partir de là, ils vont changer de vie aussi. Alors ça arrive chez les suicidés, par exemple, ceux qui se suicident, et qui reviennent à la vie, qu'on arrive à retirer. Ça ne leur reviendra plus à l'idée de vouloir se suicider, ça, c'est sûr. Et deuxièmement, ils changent de vie. Ils se disent, non, mais ce que j'ai vécu là avant, c'est pas possible, il faut que je... Donc vous avez une illumination des consciences et un avertissement, éventuellement. Voilà, donc ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils parlent tous d'enfer, bon, même sans savoir ce que c'est, mais c'est des... Alors moi, je parle d'ennemis effrayantes ou terrifiantes, mais pas négatives, parce que finalement, c'est pas négatif. S'ils reviennent, c'est pour changer de vie et apporter quelque chose aux autres. Voilà, donc vous voyez, on ne va pas directement au paradis, forcément. Il se passe des choses quand même. Alors, dans mon livre, je donne des témoignages de Gloria Apollo, par exemple, qui a vécu ça. Une EMI très, très effrayante. Elle a reçu la foudre. C'est une Colombienne chirurgien-dentiste. Elle est avec son neveu qui est mort sur le coup. Elle a fait une EMI. Et elle s'est retrouvée là-bas. Et puis, elle était tirée par des démons, elle raconte, qui la tiraient vers un lieu épouvantable, etc. Et alors, elle criait, mais arrêtez, je suis catholique. Et les Colombiens sont tous catholiques, hein, donc ça va. Mais, alors, elle appelait, et puis tout d'un coup, heureusement, l'être de lumière est arrivé. Il a dit, maman, t'es catholique. Bah, allez, raconte-moi, dis-moi un petit peu les 10 commandements, on va voir si tu les as... respecté. Déjà, il faut les connaître. Hein. Je ne vais pas vous poser la question. C'est amusant, c'est qu'une fois, j'ai raconté ça à des élèves de 6e. Parce elle raconte, non, je ne vais pas. C'était affreux. Alors, un élève de 6e qui avait... Mais elle avait tué, il me fait. Ben oui, elle avait avorté. Ah ouais. Elle l'avait tué. Oh, alors le gamin, il était... Eh bien oui, elle raconte ça. Et puis alors, l'être de lumière lui dit, bon, ben écoute, allez, je te pardonne, mais tu repars sur Terre et tu vas témoigner. Et ça fait 25 ans qu'elle témoigne. Elle fait le monde entier. Voilà, Gloria Apollo, si vous trouvez son histoire, ça vaut le coup. Voilà, donc tout ça pour vous dire que c'est quand même assez décoiffant, on peut dire, hein. Voilà, alors, vous imaginez bien que la science là-dessus est embêtée. C'est comme pour les miracles. Hein. Elle arrive à expliquer ça. Parce que quand même, que des gens dans le commun puissent revenir avec des sentiments, une mémoire. C'est Eben Alexander, qui est un chirurgien, neurochirurgien américain, qui ne croyait pas à tout ça, qui rigolait. Bon, il tombe, il fait une maladie méningite à colibacille qui est très rare, dans le coma, pendant 8 jours dans le coma, et il sort de là, guéri, complètement sans séquelles. Bon, et il s'est rendu compte que, il se souvient très bien, que pendant son coma, il avait rencontré une jeune femme qui lui avait dit « rentre, c'est pas ton heure ». Il ne connaissait pas cette femme. En cherchant, il s'est rendu compte que c'est sa demi-sœur dont on ne lui avait jamais parlé. Et là, il n'en revient pas. Et il reprend, parce que vous comprenez, c'était le patron du service, donc tous les jours, on lui faisait des électroencéphalogrammes, tout ce qu'on pouvait faire. Il reprend tous ses examens, mais il dit « Mais j'étais vraiment dans le coma, mon cerveau ne fonctionnait plus. Comment puis-je me souvenir de quelque chose ?» Et ça l'a renversé complètement. Il a écrit un livre très vite, en 6 mois de temps, il a écrit un livre « On va tous au paradis », ou un genre-là, un truc que c'est marrant. Enfin, après, pas qu'un médecin français s'amuse à écrire ça. Mais lui, américain, ils peuvent se permettre. Et donc, quand même, ça, là aussi, c'est quand même assez étonnant. Enfin, bref, voilà. Eben Alexander, que j'ai rencontré, d'ailleurs. Voilà. Alors, sur le plan scientifique, donc, c'est quand même assez étonnant. Quoi. Parce que le paradigme officiel de la science médicale, c'est que la conscience vient du cerveau. Donc s'il n'y a plus de cerveau, il n'y a plus de conscience. Donc c'est pas possible. Bon. Donc alors après, il y en a. Bon, c'est pas possible, non, c'est tout, c'est impossible, mais ça existe quand même. Alors il y a des chercheurs, parce que quand même, il y a eu des études qui ont été faites pas mal. Il y a des chercheurs qui disent bon, ben alors c'est une conscience intuitive extracorporelle, etc. Alors ils essaient de noyer le poisson. Donc notre cerveau sera un émetteur-récepteur par rapport à une superconscience. On peut tout inventer. Enfin, comme ils ne veulent pas en entendre parler de Dieu et de quoi que ce soit, ils essaient de trouver une solution. Parce que c'est des gens qui ont vécu eux-mêmes des EMI et qui savent que c'est vrai. Bon, de toute façon, il y en a eu tellement maintenant dans le monde entier qu'on ne peut plus le nier. Hein, c'est pas possible. Mais le regard de scientifiques reste toujours bloqué sur ce qui peut se passer. Alors, pour moi, la seule réponse valable, c'est une anthropologie réaliste. Et c'est laquelle l'anthropologie réaliste, c'est l'anthropologie judéo-chrétienne. C'est l'âme qui vit quelque chose. Si on ne croit pas que... Parce qu'aujourd'hui, l'âme, vous savez, pour les médecins, parce que les médecins, ils sont tous scientistes, hein, même les médecins du Comité médical international de l'eau, je peux vous dire, on est formés pour être scientistes. Hein, croire que la science va tout expliquer, ils ont beaucoup de mal à intégrer et à accepter déjà les miracles, mais encore plus les EMI, hein, ça devient... Hein. Mais voilà, c'est... ça peut s'expliquer que par la réalité de l'âme dans le corps, une âme spirituelle, qui est plus que la conscience. La conscience, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc, il y a une espèce, au moment de la mort clinique, pas de la mort ontologique, à la mort ontologique métaphysique, le corps et l'âme se séparent, c'est fini, ça ne se rabibochera pas. Là, entre les deux, il peut y avoir une espèce de distanciation de l'âme et du corps, parce que la mort n'est pas un processus qui se déroule en une seconde. C'est vraiment un temps qui peut être très long, qui peut durer plusieurs heures, et même Marthe Robin disait 3 jours. Ce qui revient à dire qu'il faut accompagner les mourants et les suivre, parce que c'est un moment très, très fondamental dans la vie de quelqu'un, où il peut se passer beaucoup de choses, et il peut se convertir. Et demander la présence de la Vierge Marie, qui est là pour nous aider à passer de l'autre côté. Et ça ne se fait pas clac d'un seul coup, mais il faut plusieurs temps qui amènent, en effet, à cette rupture de l'âme et du corps, qui est la mort ontologique. D'accord ? Voilà. Alors, moi, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Maintenant, il y a des philosophes qui ne sont pas d'accord, qui disent que ça ne peut pas exister. Pour l'instant, on en est là. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait des philosophes et des théologiens qui travaillent sur le sujet Il n'y en a pas beaucoup. Il y a un certain Jean-Claude Hanus, H-A-N-U-S, qui a écrit là-dessus, qui a écrit à partir des EMI quelque chose qui est intéressant. Je ne vais pas vous prendre dedans, mais non, j'en parlerai dans mon prochain livre. Voilà. Bon, vous en savez assez sur les EMI. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire? Ce que je voudrais dire, c'est que ce soit les EMI ou les miracles, si vous voulez, c'est un signe qui nous est donné. Hein, c'est pas un signe nous laisse toujours libre. Vous n'êtes pas obligé de croire au miracle de Lourdes, hein, le miracle du Christ, ça c'est autre chose. Mais et vous n'êtes pas obligé de croire aux EMI. Hein, si vous voulez pas les croire, c'est pas grave. Mais c'est dommage. Ça nous est donné aujourd'hui, et moi je crois que si ça nous est donné, c'est qu'il y a une raison. Dans un monde qui est coupé de Dieu, qui est coupé de la vie éternelle, que des gens viennent vous dire, ben moi j'ai vécu une expérience extraordinaire qui a transformé ma vie, qui fait que je suis sûr qu'il y a une vie après la mort, ça serait dommage de ne pas les écouter. Et je pense que ce langage a plus d'impact sur les jeunes aujourd'hui que des histoires plus anciennes qui ne touchent plus vraiment. Donc, ce sont des signes. Alors, prenons-les. C'est vraiment un signe, d'abord, qu'on peut guérir. La guérison miraculeuse, ça montre que l'homme est guérissable. Il va guérir, bien sûr, de l'autre côté, hein, complètement, mais déjà, ici sur Terre, il peut y avoir des guérisons du corps qui sont quand même visibles, constatables et qui sont intéressantes à savoir. Mais c'est une guérison de toute la personne, en plus, c'est ça qui est intéressant. Et puis, moi, je crois aussi ces signes, justement, de l'existence d'une âme spirituelle dans la personne. Que ça, c'est très important, comme je voulais vous le dire, mais je ne l'ai pas dit. Mais pour les médecins, l'âme, c'est le psychisme, rien d'autre. L'homme est un être psychosomatique, avec en plus un inconscient, un subconscient, tout ce qu'on voudra. Mais l'âme, on ne la voit pas. On ne peut pas la mesurer, on ne la voit pas sous le microscope. Donc si ce n'est pas mesurable, ça n'existe pas. C'est ça le scientisme, hein, ce n'est pas autre chose. Hein, si ce n'est pas mesurable, ça n'existe pas. Voilà. Donc, d'autre part, on ne pourra jamais prouver un miracle, ni une EMI. Et c'est là où on voit que la science en particulier est bloquée quand il y a des phénomènes qui ont un rapport avec le surnaturel. Vous savez, la science, elle peut remonter jusqu'au Big Bang, mais avant le Big Bang, elle ne pourra jamais dire quoi que ce soit. C'est d'un autre ordre. Donc là, c'est pareil, en fait. Les miracles, on ne pourra pas les prouver. Je peux vous citer Blaise Pascal qui disait... Il disait quoi, déjà? Si on arrivait à prouver un miracle, ce ne serait pas un miracle. Parce qu'il y a toujours un mystère. Et si on arrivait à prouver une EMI, il n'y aurait pas d'EMI. Non, voilà. Il y a un mystère parce que ça se passe dans un autre domaine qui nous dépasse, qui est de l'ordre du surnaturel. Et Pascal disait aussi, dans le miracle, il y a suffisamment de clarté pour ceux qui veulent bien croire, et suffisamment d'obscurité pour ceux qui ne veulent pas. Ben, les EMI, c'est pareil. Alors moi, c'est pour ça que je rapproche très fort les deux, et je vais finir là-dessus, parce que le temps tourne quand même, donc vous avez des questions sûrement. Quel est le... Moi, j'ai dans mon deuxième livre, là, expérience... j'ai fait un deuxième livre qui s'appelle « Expérience de vie imminente ». Parce que les gens que j'ai vus, quand j'ai eu écrit mon premier livre, « Expérience de mort imminente », comme c'était catholique, j'ai eu plein de catholiques qui m'ont écrit, envoyé des mails, etc., qui n'avaient jamais osé parler de leur EMI. Et donc, ils m'ont envoyé des témoignages magnifiques. Et pour ceux qui le voulaient bien, je les ai reproduits dans un deuxième livre qui s'appelle « Expérience de vie imminente », parce que ce qu'ils me disaient... pas la mort qui a été intéressante pour nous, c'est la vie qu'on a découverte. C'est ça qui pour nous est extraordinaire. Donc, expérience de vie imminente. Et dans ce livre, je vous reprends maintenant, j'ai fait une comparaison entre les miracles et les EMI. J'ai mis 7 points. Le premier, les miracles et les EMI ne se décrètent pas. Ils sont donnés. Donnés à certains, on ne sait pas pourquoi. Alors pourquoi certains guérissent à l'eau? Bon, je me souviens de M. Belli, il avait 60 ans, il avait à côté de lui une petite fille de 5 ans qui était extrêmement malade. Lui, il s'était habitué à sa maladie, mais il me disait toujours « Pourquoi c'est moi qui guéris? Pourquoi c'est pas elle? Pourquoi c'est pas elle ?» Bon, C'est vrai, on n'a pas la réponse. Le père Tardif, qui, vous savez, le père Tardif, c'était le début du renouveau il y a 50 ans. Quand il finissait sa messe, il disait, il y a un tel qui guérit, un tel qui guérit, un tel qui guérit, puis les gens ont été guéris. Et il a dit, pourquoi ceux-là guérissent et pas d'autres? Il ne savait pas. Il dit, la première chose que je demanderai à Dieu quand j'arriverai au ciel, c'est pourquoi il a guéri certains et pas d'autres. C'est injuste. Bon. Donc c'est comme ça, on ne sait pas. Et pourquoi certains font des EMI et d'autres pas? On n'en sait rien. Et c'est là où ça dépasse nos capacités de compréhension. Parce que il n'y a pas de raison physique, physiologique ou autre qui fait que quelqu'un fait une EMI et une autre pas. Donc ça vient bien d'ailleurs. Ok. Donc ces phénomènes sont, que ce soit les EMI et les miracles, c'est toujours inattendu. Ça arrive au moment où on ne s'y attend pas. Enfin, les miraculés, ils n'y pensaient pas 5 minutes avant. Hein. Sœur Bernadette, là, qui est la dernière miraculée à 70e, elle a guéri comme ça, 2 jours après être allée à Lourdes, elle ne s'y attendait absolument pas. Voilà. Donc, et les gens qui font des EMI, ils ne s'y attendent absolument pas. Il faut dire qu'ils sont dans le coma, alors ils auraient du mal à s'y attendre. Enfin, c'est pas grave. Ils sont en tout cas pleinement conscients de ce qu'ils ont vécu, qui est de l'ordre de l'indicible, qui est l'ordre de la grâce, qui est donnée. Bon. Pour en parler, il faut les entendre. Parce que tout repose sur leur témoignage. Alors, c'est jamais facile un témoignage, vous savez bien qu'on peut toujours en rajouter ou ça. Donc il faut avoir un peu d'habitude et de discernement, mais que ce soit les expérienceurs ou les miraculés, c'est sur leur témoignage qu'on peut aller plus loin. Après, il faut authentifier, mais voilà. Alors, les uns comme les autres, en général, expérimentent un amour très fort. Cette musulmane qui avait guéri dans la piscine, c'était un amour extrêmement fort qu'elle a vécu, qui la maintient encore aujourd'hui, parce que je continue de temps en temps à avoir ses nouvelles. Parce que après tout ça, son mari l'a quittée. Son mari l'a quittée parce qu'il était musulman, il ne pouvait pas admettre qu'elle se tourne vers la religion chrétienne. Bon. Donc, voilà l'amour qui les marque. Et il y a un avant et un après. Toujours. Un avant et un après pour eux. Ce ne sont plus les mêmes personnes. Enfin, et alors, ça, c'est quand même un critère important. Moi, j'ai vu des miracles, enfin des guéris qui n'avaient jamais été reconnus miraculés, mais qui avaient changé de vie, ou des EMI, qui avaient passé le reste de leur temps à s'occuper des autres, etc. C'est magnifique. Et dernière chose, on ne peut pas prouver ni un miracle ni une EMI. C'est un signe gratuit du ciel qui nous ouvre à la vie invisible. Je vais terminer par une citation de l'abbé Pierre d'Escouvemont, que je connais bien, qui dit « Les miracles, et vous pourriez dire les EMI, c'est pareil, signifient tout à la fois que les temps messianiques sont déjà là, que l'Esprit est à l'œuvre parmi nous, mais qu'il n'a pas encore déferlé sur le monde, comme il le fera au dernier jour, lorsque le Christ viendra essuyer toute larme de nos yeux. » Bon, alors dites-moi que je ne suis pas venu pour rien. Allez, il y a des questions.
Plutôt par rapport au miracle, qu'est-ce qu'on fait de l'effet placebo dans tout ça?
L'effet placebo, qu'est-ce que tu appelles l'effet placebo d'abord?
Pardon?
L'effet placebo, on essaie de dire à quelqu'un, vous allez guérir, vous allez voir, je vais vous donner un médicament qui va faire que, hop, demain, vous... c'est psychique, on fait croire à la personne qu'elle va guérir en prenant de l'aspirine. C'est ça l'effet placebo. Or là, les gens qui guérissent, on leur a pas dit vous allez guérir tout à l'heure. Hein, mais, non. Il n'y a aucun psychisme là-dedans, ils s'y attendent absolument pas.
Et pour pousser la question de Pierre, ils viennent à Lourdes. Donc s'ils viennent à Lourdes,
oui.
Ils peuvent avoir quand même une certaine espérance de guérir.
Oui, mais enfin, je peux vous dire que 99,9% des gens qui viennent à Lourdes ne guérissent pas. Hein. Sauf que. Ils ne repartent pas comme ils sont venus. Ils ne repartent pas comme ils sont venus, parce qu'il se passe quelque chose à Lourdes. C'est ce lieu est quand même ouvert sur le ciel, hein, et la Vierge Marie est toujours présente. Et donc, même s'ils repartent dans l'état dans lequel ils étaient arrivés, ils arrivent à mieux vivre leur maladie, et ils ont envie de revenir l'année suivante. C'est ça qui est quand même assez étonnant, quoi, alors qu'ils n'ont pas guéri, je veux dire. Mais il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, et c'est peut-être ça le plus important. Mais ce n'est pas l'effet placebo de Lourdes. Enfin, il y a quand même une prière à Lourdes qui est constante. Et pour tous, quoi. Il y en a qui ne prient pas. Aujourd'hui, il y a malheureusement beaucoup de touristes qui passent à Lourdes. Ils arrivent à la grotte, ils prennent la photo, mets-toi à côté, tac, tac, et puis ils repartent, et puis c'est fini. Mais il y a quand même le lieu qui compte. Et il y a des gens qui prient là, toute l'année et toute la nuit. Là, c'est pas... Autre question. Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres religions qui reconnaissent des miracles aussi? Et comment est-ce qu'on peut expliquer que d'autres religions reconnaissent des miracles?
Alors, j'ai pas bien compris parce que je suis un peu sourd. De...
Est-ce qu'il y a d'autres religions qui reconnaissent aussi des miracles?
Ah, d'autres religions? Oui, 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 toutes les religions reconnaissent des miracles. Hein. Y a des miracles partout dans le monde. Chez les bouddhistes, chez les musulmans, il peut y avoir des miracles. Bon, alors, ils n'appellent pas miracle en soi. Le miracle est un terme religieux catholique, chrétien, disons. Mais il y a des surprises, il y a des gens qui étaient malades et qui guérissent. Pourquoi pas? Bon, c'est... Finalement, Dieu agit dans tous les cœurs droits, hein, on le sait. Bon, il peut y avoir aussi des prières, tout ce qu'on... On ne connaît pas l'âme des gens, donc il peut très bien y avoir des miracles dans d'autres religions, enfin dans d'autres pays, dans d'autres... J'en ai connu. Moi, j'ai souvenir d'un médecin pakistanais qui était venu à un congrès sur la côte basque, puis ils ont vu que Lourdes n'était pas loin, alors ils sont venus à Lourdes. Que Lourdes est connue de partout. Et puis, je leur ai fait un petit discours sur les miracles. Oui, chez nous, on a aussi des miracles. Bon, très bien. Et quand je leur ai dit qu'il y avait des médecins qui venaient passer là 8 jours à leurs frais pour se mettre au service des malades, ils disaient, oh, ben ça, nous, on le fera jamais. Ça, c'est un miracle, ça. Ouais, comme quoi, souvent, les civilisations... Bon, voilà. Ok.
Est-ce qu'on a des témoignages de Élie dans les siècles précédents?
Oui, 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 oui. Grégoire de Tours lui-même en a raconté. Grégoire de Tours, vous savez mieux que moi quelle époque c'était. C'était un historien. Il en a raconté des événements. Hein? Pourquoi il rigole là? Il y en a des très drôles. Comment il s'appelait ce, un évêque d'Albi qui est mort, et puis tout le monde pleurait. Et au moment de le mettre en bière, il s'est relevé. Il s'est relevé, et puis. Alors il a dit: mes frères, bon, ben non, j'ai rien à vous dire. Et vanité des vanités, tout est vanité. Voilà tout ce qu'il a dit. Il est revenu à lui. Bon, dans mon livre, j'en raconte plusieurs comme ça. Je crois que vous regardiez. Mais oui, ça. Il y en a eu à toutes les époques. Mais c'était moins connu. Par exemple, alors, Jérôme Bosch, vous êtes artiste. Jérôme Bosch, on voit là, ce tunnel. Est-ce qu'il a fait une EMI lui-même avant? On n'en sait rien. Mais c'est possible, parce que son tunnel, c'est vraiment le tunnel de l'EMI. C'est étonnant. Moi, j'ai eu une dame, j'avais été faire une conférence, c'était à Poitiers, qui avait fait une EMI, et elle avait passé son elle était artiste à représenter ce qu'elle avait vu. C'est quand même cette histoire de tunnel en général. Et avant de mourir, elle m'en a offert un. Hein. Alors je l'ai chez moi, mais on va le voir si vous voulez. Un de ses tableaux, quoi. Non, c'était assez prenant. Oui.
Ce que les gens racontent sur le fait qu'ils voient un être de lumière et qu'il y a quelque chose comme une forme de... Pas de, enfin, en fait, ça ressemble beaucoup au jugement particulier,
oui.
Ce qui est raconté.
Oui.
Pour autant, ces personnes ne sont pas mortes.
Oui. Je suis d'accord.
Donc c'est quand même compliqué,
oui,
d'admettre qu'elles passent par un jugement enfin, il y a une espèce de comme si le Seigneur déformait un petit peu les données de ce qui se passe a priori après la mort, enfin ce dont on sait, enfin parce que l'Église nous dit et parce que l'on le dit, mais pour en fait comment dire, enfin on a quand même l'impression que c'est pas tout à fait censé se passer comme ça. Enfin si, un jugement c'est qu'a priori c'est fini, donc c'est quand même un peu étrange.
Ouais, c'est étrange.
En fait, ce que je propose, c'est est-ce que vous pensez pas que dans la mesure où on parle de fait beaucoup de la vie de nos jours, en fait, c'est comme si Dieu essayait de nous donner un signe un peu, enfin, adapté à notre temps. Parce qu'autrefois, il y a beaucoup de miracles de guérison, mais aujourd'hui, les gens ont tendance à être assez incrédules vis-à-vis de ça. Enfin, il suffit d'en discuter, oui, pour voir que les gens s'en fichent et mettent, enfin, parlent de l'effet placebo, justement. Mais en fait, c'est quelque chose de très impressionnant. Et pour une société qui est vraiment obsédée par la mort, qui a un rapport à la mort, qui a un rapport à la fois de fascination et d'évitement, est-ce que vous pensez que, du coup, il y a quelque chose, en fait, dans ce signe de menu qui, enfin, qui est vraiment plus qu'un miracle, vraiment un signe pour notre temps
Ah, complètement. Tu as bien raison de poser la question. Moi, je le crois complètement que c'est un signe pour la fin des temps. Pour la fin des temps qu'on va vivre. Parce que la fin des temps, elle arrive. On ne peut pas continuer dans l'autoroute qu'on a pris depuis 68. On n'a pu croire en rien. Je peux le dire parce que je l'ai vécu, moi, 68. Vous ne l'avez pas vécu. Mais je peux vous dire, c'était... On est tombé de haut. Hein. Alors, comme tu disais, les miracles, aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. À Lourdes, là. Il y a quelques mois, ils ont été recherchés un miracle d'il y a 90 ans, 100 ans même. Je trouvais ça complètement stupide. Et ils osent dire que c'est le 71e miracle de Lourdes. Je ne crois pas une seconde. On ne va pas rechercher un miracle qui a eu lieu 100 ans avec un mec qui est mort depuis 80 ans. Il est mort en 45, je vous assure, c'est complètement stupide. Bon, on en voit toutes les couleurs. Enfin, j'y suis plus, donc je peux dire ce que je pense. Mais, comme je vous le disais, au début du siècle, le 20e, on faisait la queue pour raconter ces guérisons, et j'ai des témoignages extraordinaires. Aujourd'hui, on les attend, les miraculés, les gens qui veulent bien dire qu'ils sont guéris. Bon, il faut dire qu'on a aussi exagéré, à mon avis, toujours mon avis, mais ce n'est pas forcément celui du médecin actuel, la difficulté à reconnaître une guérison miraculeuse. La sœur Bernadette en question, moi je l'ai eue, celle qui a guéri de sa maladie, dont elle était malade depuis 40 ans, elle était paralysée depuis 40 ans... Elle guérit instantanément. Quand elle m'a raconté ça, j'étais le premier à l'entendre puisque j'étais encore en poste. Au bout d'une heure qu'elle m'a parlé, je me suis dit, bon, c'est évident, c'est un miracle, il n'y a pas la peine de... Et tous les éléments, ça correspondait aux critères. Il a fallu 10 ans pour arriver à dire, ouais, c'est un miracle, elle était voir 25 psychiatres. Ah ben d'ailleurs, c'est une bonne sœur, alors c'est encore pire qu'une femme. Pour qu'on est tombé là, quoi. 10 ans pour reconnaître une guérison qui était évidente, quoi. Enfin, franchement, elle a vu 250 médecins, elle a vu 25 psychiatres. C'était de l'hystérie, soi-disant. Donc, il y a de l'acharnement méthodologique. Les gens qui savent ça aujourd'hui, vous croyez qu'ils vont venir se déclarer ? Ouais, faut pas être fou, hein. Subir ce qu'elle a subi. Corinne, elle était bonne sœur, elle avait que ça à faire. Mais moi, moi, j'ai autre chose à faire que d'aller voir les psychiatres. Et... Non, mais où est-ce qu'on va, là? Donc, il n'y en aura plus. Hein. De toute façon, depuis sœur Bernadette, il n'y a plus de miracle à Lourdes. Hein, c'est fini.
C'est un manque de foi de notre part. Enfin, c'est pas simplement... C'est pas juste une stratégie du Seigneur. On va privilégier les ENI parce que...
Mais exactement. C'est la stratégie du Seigneur. Que... Mais bien sûr, il n'y a plus de miracle... trouver autre chose. Il faut toucher les gens d'une façon ou d'une autre. Vous savez, qu'est-ce qui touche le plus ? C'est le témoignage. C'est quoi le témoin ? C'est le martyr. On a Jean-Paul... Mickey, son prénom. Paul Mickey, c'est son compagnon. Merde, ils se sont fait crucifier à Nagasaki. Vous croyez que ça passe ? Ça, c'est ça. Le martyr, c'est le témoin. Moi, il n'y a que ces témoignages-là qui comptent. À Nagasaki, grâce à leur mort, il y a eu toute une communauté catholique qui s'est formée. Il y a eu Maximilien Kolb qui est venu, il y a eu Takashi Nagai, je ne sais pas si vous avez entendu parler, un japonais qui a reçu la bombe atomique. Enfin, lui, il était à 10 km, mais sa femme, elle restait qu'une poudre. Et Takashi Nagai, etc. Enfin, Nagasaki, c'est un lieu ultra-catholique. C'est le témoignage qui compte aujourd'hui. Peut-être que nous, on sera obligés d'être témoins dans notre corps. Hein. Et c'est pour ça que moi, je crois beaucoup que le témoignage des expérienceurs est fondamental. Et ce que je vous disais, c'est... Alors ça, c'est le sujet de mon prochain bouquin. C'est illumination des consciences ou avertissement. Et vous savez qui a parlé d'illumination de conscience ou d'avertissement ? Il y a 60 ans exactement, la Vierge Marie. Et où ? En Espagne. Et où ? À Garabandal, un lieu d'apparition où je suis allé, qui est à 450 km de Pau, donc ça se fait sur un week-end, est apparu dans ce village paumé. Il n'y a rien autour. C'est un village. Il n'y avait pas le chemin de fer, il n'y avait pas de route pour y arriver. Les gens vivaient en autarcie. Il y avait de l'électricité un peu la nuit, le soir, quand ça voulait bien. Quelques vaches, quelques moutons, quelques chèvres. Mais ils priaient le chapelet tous les jours. Il y avait quelqu'un qui passait avec une cloche pour qu'on aille prier à l'église. Ils avaient l'adoration, ils avaient le Saint-Sacrement. Vous pouvez y aller n'importe quand, jour et nuit. Et la Vierge est apparue là, entre 62 et 65, à quatre jeunes filles de 11-12 ans. Et ce qui est assez étonnant, c'est que... l'Église n'a jamais reconnu l'apparition de Garabandal, pour l'instant. On a le droit. Hein. Moi, avec mon discernement à moi, mais quand même, je pense que sans sum fidei, ça compte. Les fidèles ont le droit aussi d'avoir leur avis. Tout quand même que j'étais formé à Lourdes, je vois un peu les choses. Ces quatre jeunes filles, elles recevaient un appel à aller à tel ou tel endroit, elles s'y retrouvaient là, et là, elles tombaient en extase, comme Bernadette, exactement comme Bernadette, c'est-à-dire que on pouvait plus les soulever, on pouvait leur envoyer des éclats dans les yeux, leurs yeux ne bougeaient plus, on pouvait les brûler avec une cigarette, ça ne bougeait pas, rien du tout. Leur corps était différent. Et elles étaient transfigurées à ce moment-là. On voulait tous regarder leur visage tellement il était beau. Et elles ont reçu plus de 2000 fois la Vierge Marie. Et tout ça a été filmé et photographié. C'est pas de la blague. Donc on a des films, hein, je peux vous dire, et des photographies extraordinaires. Et la Vierge leur a dit que le monde allait vivre une illumination des consciences et avertissement. Illumination des consciences pour les cathos, les chrétiens, et avertissement pour ceux qui ne le sont pas. Ah, tiens. C'est quand même intéressant. Et en plus, ça ne va pas arriver dans 50 ans. Hein. C'est pour nous aujourd'hui. C'est pour vous. Moi, je ne verrai peut-être pas, mais enfin. Elle a dit qu'après cette illumination des consciences, qui va durer 3 jours, tout le monde entier va être... Il y aura un miracle, plus grand qu'à Fatima. Et qu'une des voyantes qui est toujours vivante, Conchita, qui est née en 49, alors calculez, elle a 75 ans, l'annoncera 8 jours avant. Donc elle a 75 ans, donc à moins qu'elle vive 120 ans, ce ne sera pas pour le troisième millénaire, le quatrième millénaire, hein, pour moi. Non, moi je trouve que c'est très important. Hein, aujourd'hui, on a besoin de ça. On a besoin de ça. Les EMI, c'est un signe pour nous aujourd'hui. Il ne faut pas passer à côté. C'est le Seigneur qui veut nous parler d'une façon ou d'une autre.
Merci beaucoup.
Pas de questions.
Juste peut-être une petite précision. Oui. Vous avez dit que vous transmettiez à peu près 10 dossiers par an sur de potentiels futurs miracles. Et à la fin, il y en a 70 en tout qui sont reconnus depuis le début de l'histoire de Lourdes.
Oui,
est-ce que c'est les 25 psychiatres qui se sont perdus en route et si ça n'a pas conclu ? Est-ce que c'est l'Église qui, dans beaucoup de cas, ne se prononce pas ? Enfin, qu'est-ce qui oblige ?
Les deux, mon capitaine. Okay. Et d'abord, les médecins qui ne veulent pas y croire. que moi, je leur ai présenté, quand j'étais là, beaucoup plus de guérisons que de miracles, que de reconnaissance par eux de maladies inexplicables, parce que moi, j'insiste sur l'explicable. Il y en a une, par exemple, au passage de Jean-Paul II, il y en a une au passage de Benoît XVI. Ça ne les a pas touchés. Non. Et après, il y a l'Église. Parce que les évêques ne sont pas obligés. Parce qu'une fois que, le comité médical a dit, bon, on ne comprend pas, l'évêque de Lourdes envoie le dossier à l'évêque du diocèse du Guéry. Donc ça peut être n'importe où dans le monde. Mais enfin, il y a avant tout français, italien. Pour le reste, c'est très difficile. Parce que quand quelqu'un a guéri qui habite à l'autre bout du monde, c'est très difficile pour le suivre et on n'arrive pas à aller plus loin. Donc, je peux vous dire que moi, j'ai eu des réponses d'évêques français. Parce que les évêques italiens, que voulez-vous, c'est les évêques, ils sont un peu débordés, ils ont d'autres chats à fouetter, on leur met ça en plus au dossier, il va falloir... Ça passe à l'as. Ça reste là. Et j'ai des miraculés, enfin moi, pour moi, des miraculés, hein, qui l'ont eu dur, quoi. Parce que, parce qu'on en est resté là, bêtement. Voilà, c'est comme ça. C'est nos faiblesses humaines. Hein. Mais voilà, il y a beaucoup d'obstacles. Mais le plus gros obstacle aujourd'hui, c'est que les gens ne se déclarent plus. S'ils ne se déclarent plus, c'est foutu. Or, depuis Sœur Bernadette, 2008, c'est combien de temps ? 15 ans ? De petites choses, mais rien de sérieux, quoi. Les gens qui... Moi, le pire, c'est quelquefois, j'ai des gens qui viennent me raconter des histoires qui sont vraiment belles, et je leur dis, mais vous avez été au bureau médical pour... Vous ne comptez pas là-dessus, moi, je ne dirai jamais. Ils ne veulent pas. C'est perdu pour tout le monde. C'est dommage. Donc là, il y aurait quelque chose à revoir, mais bon, je ne suis pas l'évêque. Hein. Ni le médecin, parce que c'est un médecin italien, donc il voit les choses à sa façon. C'est comme ça. C'est bon ?
Oui.
Allez.